Allez, Michel, bonjour, bienvenue. Voilà, chaque mois, donc fidèle, vous venez
Bonjour
depuis
Joël.
Dordogne. Alors, Michel, avant que vous nous parliez de votre chronique Astro, rappelez-nous, hein, c'est important de rappeler, hein, l'association Constellations et Galaxies, en quelques mots.
Voilà, alors c'est une petite association par le nombre de membres, mais qui est basée en Dordogne, près de Mussidan, à Saint-Médard-de-Mussidan exactement, et dont la vocation est la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie. Et parmi les animations que propose l'association, disons la plus représentative et la plus demandée, c'est un planétarium itinérant, hein, une structure qui est très rare en Aquitaine, il y en a très peu, qui peut se rendre, donc souvent pendant la période scolaire, c'est dans les établissements, écoles, collèges, lycées. Ça peut être aussi dans une salle des fêtes, parce qu'une mairie veut faire un peu une soirée culturelle autour de l'astronomie ou des choses comme ça. Donc on trouve sur le site toutes les informations, hein, sur la place qu'il faut pour l'installer, les tarifs, etc.
Voilà, c'est bien de le rappeler. Puis le site internet constellations-et-galaxies.org, on peut retrouver toutes les chroniques et plein de bonnes infos, hein,
Voilà.
sur l'actualité. Voilà, on le redira bien sûr à la fin de sa chronique et juste de votre chronique. Et justement, voilà, 49e chronique astro. Alors vous allez commencer par l'actu et InSight qui s'est posé sur Mars ce lundi.
Voilà. Cette fois-ci, un peu comme la dernière fois d'ailleurs, c'est plutôt de l'astronautique dont on va parler que d'astronomie, parce qu'il y a pas mal d'actualités dans ce domaine-là. Alors, la plupart des auditeurs ont dû entendre parler dans les médias, hein, la sonde InSight de la NASA s'est posée lundi soir sur le sol martien, vers 21h heure française, et tout s'est bien déroulé. Elle a déployé ses panneaux solaires et a déjà envoyé une première image quelques minutes plus tard. Alors ça peut paraître assez banal qu'une sonde martienne se comporte comme prévu, mais je rappelle que depuis le début de l'exploration de Mars, il y a plus de 40 ans, hein, en 1976 avec les deux sondes Viking de la NASA déjà, seulement un peu plus de la moitié des atterrisseurs ont réussi à se poser en douceur sans se crasher à la surface. Il y a eu 7 succès pour 5 ratés, si j'ai bien décompté toutes les tentatives américaines, russes et européennes. Il est difficile de s'y poser en douceur car Mars est une planète relativement grosse, hein, 8 fois plus petite que la Terre en volume à peu près, mais avec une gravité de surface comparable à celle de notre planète, un peu moins de la moitié. Ce qui rend difficile un freinage avec des rétrofusées comme on peut le faire par exemple sur la Lune où la gravité de surface est environ 3 fois plus faible. Heureusement, l'atmosphère martienne, même si elle est très peu dense, hein, la pression atmosphérique à la surface c'est moins de 1% de ce qu'on a sur Terre, l'atmosphère permet de freiner l'engin par le frottement sur un bouclier thermique qui le protège de l'échauffement, puis de déployer ensuite un parachute pour freiner encore la descente vers le sol, mais pas suffisamment pour se poser en douceur comme sur Terre, hein, par exemple pour les Soyouz ramenant les astronautes après une mission à bord de l'ISS. Car la très faible atmosphère martienne obligera à utiliser d'énormes parachutes qui seraient très pénalisants en termes de poids pour la mission spatiale. Donc sur Mars, on combine les trois techniques, ce qui rend l'atterrissage compliqué et risqué et fait vivre un véritable cauchemar aux personnes qui ont travaillé des années ou des dizaines d'années à la conception et la réalisation de ces atterrisseurs pendant les 7 dernières minutes d'un voyage de plusieurs mois. Imaginez si le sujet sur lequel vous avez sué pendant peut-être la moitié de votre vie professionnelle se désintègre en quelques minutes. Les Américains, toujours friands de formules grandiloquentes, appellent cette séquence les 7 minutes de terreur. Pour InSight, tout s'est bien déroulé. Elle a pénétré dans l'atmosphère martienne environ 7 minutes avant de toucher le sol, et pendant sa chute libre d'environ 130 km, sa vitesse est descendue de 20 000 à 2 000 km/h, ce qui a fait monter la température de son bouclier thermique à plus de 1500 degrés. À ce moment, le parachute de 12 mètres de diamètre s'est déployé pour encore 12 km de descente en à peu près 3 minutes et demie. Puis le parachute a été largué à peu près à 1000 mètres d'altitude et ce sont des rétrofusées qui ont assuré la séquence finale pour poser en douceur la sonde, guidée par un radar activé pendant la descente en parachute. On pourrait voir prochainement des vraies images de la descente en parachute filmées par des orbiteurs. Elles ne sont pas encore disponibles, je ne les ai pas trouvées sur Internet. Lundi soir, il était possible de suivre cet épisode en direct, mais avec des images de simulation. Lors de la retransmission sur Internet organisée par le CNES, hein, le Centre National des Études Spatiales, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec un grand nombre d'invités. Alors, en fait, c'était pas vraiment en direct, car il ne faut pas oublier qu'en raison de l'éloignement actuel de Mars par rapport à la Terre, hein, c'est dans les 146 millions de kilomètres, les informations sur le déroulement des opérations nous provenaient d'InSight avec environ 8 minutes de retard, le temps que les ondes radio puissent nous parvenir à la vitesse de la lumière. Et même pour ceux qui ont raté cette retransmission, il peut être intéressant de revoir la vidéo en différé, car beaucoup d'informations et d'explications étaient données par différents intervenants sur la mission, les instruments, l'exploration de Mars, etc. Et notamment par Francis Rocard, un fils de l'homme politique bien connu Michel Rocard, qui est le directeur des missions d'exploration du système solaire du CNES. J'ai transmis à Eau de Radio le lien pour y accéder, pour qu'on puisse le mettre sur le site ou la page Facebook.
Voilà, ça sera mis sur la page Facebook. Alors Michel, pour ceux qui n'auront pas le temps d'aller la voir, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mission InSight ?
Alors pour commencer, il faut rappeler que de tels projets sont très longs à se concrétiser. Comme je l'avais expliqué le mois dernier à propos de la mission européenne et japonaise BepiColombo, lancée début octobre vers Mercure, qu'elle n'atteindra que dans 7 ans. Pour InSight, c'est au début des années 1990 que la NASA réfléchit à la possibilité d'étudier Mars en posant des sismomètres à sa surface. Au départ, on pensait à tout un réseau de 16 ou 20 stations. Mais cette idée est abandonnée en 1996 car trop coûteuse, et la politique d'exploration martienne vise alors la recherche de la vie sur la planète rouge plutôt que l'étude de son sous-sol. C'est le CNES français, un Centre National des Études Spatiales, qui reprend l'idée avec seulement 4 stations à la fin des années 90, projet qui aurait pu s'intégrer dans le programme ExoMars de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Mais là aussi, se recaler car trop coûteux. L'idée refait surface au milieu des années 2000, car l'évolution des techniques permettait d'obtenir depuis des résultats analogues avec un seul sismomètre. Ce projet est proposé à la NASA dans le cadre de son programme Discovery, d'exploitation robotisée du système solaire, basé sur des sondes relativement peu coûteuses, hein, c'est moins de 450 millions de dollars. Et il est retenu en mai 2011 dans le cadre de la 12e mission Discovery, prévue pour aller vers Mars en 2016. La sonde, désormais baptisée InSight, est donc conçue et construite entre 2012 et 2015 pour un lancement prévu en mars 2016, à l'occasion de l'opposition de mai 2016. Malheureusement, en décembre 2015, le principal instrument fourni par le CNES ne réussit pas les tests de résistance très sévères que tout satellite doit subir avant son lancement, et devant le risque d'un dysfonctionnement une fois arrivé à la surface de Mars, la décision est prise par la NASA de maintenir la mission, mais de la reporter à l'opposition suivante en 2018, ce qui faisait 2 ans pour régler le problème technique. C'est ainsi que la sonde a été lancée le 5 mai dernier, environ 3 mois avant l'opposition Terre-Mars, pour bénéficier d'un trajet le plus court possible. Je rappelle que l'opposition, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, est le moment où la Terre passe entre Mars et le Soleil, d'où le nom, car les deux astres sont à l'opposé dans le ciel, période où la distance est minimum entre les deux planètes, de l'ordre de 60 millions de kilomètres, donc favorable à l'envoi de missions martiennes bénéficiant ainsi d'un trajet réduit. Comme le voyage dure dans les 6 mois, on procède au lancement environ 3 mois avant l'opposition, et donc InSight a navigué environ 7 mois entre la Terre et Mars, sur une distance de près de 460 millions de kilomètres. Ces distances astronomiques sont toujours difficiles à appréhender, hein, même pour des astronomes. Aussi, j'aime bien les illustrer avec des exemples concrets. À la vitesse de croisière d'un Airbus A380, hein, qui est presque 1000 km/h, il faudrait plus de 50 ans pour parcourir cette distance.
Alors, qu'espère-t-on justement découvrir sur Mars avec InSight ?
Alors, comme son acronyme l'indique, InSight, hein, littéralement « pénétration », vise à mieux connaître l'intérieur de la planète. Le développement de l'acronyme, c'est Interior Exploration Using Seismic Investigation Geodesy on Heat Transport, soit en français, exploration interne par les sondages sismiques, la géodésie et les flux thermiques. Et ça nous éclaire sur les deux principaux objectifs. Étudier les ondes qui se propagent à l'intérieur de Mars avec un sismomètre, et d'autre part, la chaleur du sous-sol. Pour ce qui concerne le sismomètre, le premier posé sur Mars depuis les sondes Viking en 1976, c'est l'instrument SEIS qui a été fourni par le CNES français. Il pèse dans les 30 kg et comporte 3 détecteurs, un pour chaque axe de vibration. Il sera délicatement posé à la surface par un bras robotique de 1,80 m, assisté de 2 caméras, pendant les prochaines semaines, pour permettre à SEIS de fonctionner probablement à partir de mars 2019. Les premières images de l'environnement fournies par les caméras sont encourageantes car il n'y a pas d'obstacle, comme par exemple un gros rocher qui pourrait gêner ce déploiement de SEIS. C'est pour cela que le site d'atterrissage dans la planète Elysium Planitia, hein, la plaine Élysée en français, a été choisi car c'est une région relativement plate et peu accidentée, malgré la présence d'anciens volcans, ce qui peut être intéressant pour l'activité sismique, dans l'hémisphère nord mais pas très loin de l'équateur pour bénéficier d'un bon ensoleillement des panneaux solaires qui assure l'alimentation électrique, avec une couche épaisse de régolithe, roche très fiable permettant la pénétration facile de l'autre instrument dont je vais parler. Elle n'est pas très éloignée non plus du bord des plateaux de l'hémisphère sud. Je rappelle à nos auditeurs que les deux hémisphères de Mars sont très différents, avec une altitude moyenne plus haute de 6000 mètres en moyenne pour le sud, ce qui fait penser à un continent émergé, alors que le nord aurait accueilli un vaste océan à l'époque où l'eau liquide aurait existé en abondance sur la planète. Il y a environ 3,8 milliards d'années. InSight s'est donc posé sur ce qui a été un fond océanique, mais pas trop loin dans l'ancienne côte, ce qui est intéressant du point de vue de l'étude sismique, car les deux hémisphères présentent probablement une croûte d'épaisseur très différente, comme c'est le cas sur Terre entre les continents et les fonds océaniques. Car le but de CEIS est de capter les vibrations du sous-sol martien, un peu comme les micro-séismes qu'on a sur Terre, qui peuvent provenir de différents phénomènes. Des craquements de la planète sous l'effet de son refroidissement, des volcans, même s'ils ne sont plus actifs, ou de la chute de météorites, beaucoup plus fréquente que sur la Terre, dont l'atmosphère très dense nous protège. Par une reconstitution en 3D de la propagation de ces ondes sismiques à l'intérieur de la planète, on pourra détecter les différentes parties qui la composent, car ces ondes sont déviées ou réfléchies lorsqu'elles passent de l'une à l'autre. On espère ainsi caractériser ces différentes couches et comparer cette autre planète tellurique avec la Terre, dont on sait qu'elle comprend trois grandes structures. La croûte solide sur laquelle nous vivons, le manteau liquide qui alimente le volcanisme et la tectonique des plaques, et au plus profond, un noyau constitué principalement de fer qui est à l'origine du champ magnétique de notre planète. Or Mars, relativement semblable à la Terre vue de l'extérieur, est très différente. Il n'y a plus aujourd'hui ni volcanisme actif ni tectonique des plaques à l'œuvre pour modeler sa surface, et pratiquement pas de champ magnétique non plus. L'autre instrument important d'InSight viendra compléter cette connaissance de la structure interne, c'est HP3, ce qui veut dire Heat Flow and Physical Properties Package, soit ensemble instrumental, flux de chaleur et propriétés physiques, qui est fourni par la DLR, l'agence spatiale allemande. On voit donc que la NASA assure surtout la logistique de la mission, mais que ce sont les Européens qui ont équipé la sonde de ces instruments scientifiques. Avec un système de martelage répétitif, HP3 va forer un trou en enfonçant progressivement une masse cylindrique pointue dans la régolithe friable, en espérant atteindre la profondeur de 5 mètres. Dans ce forage, HP3 déploiera un ruban équipé de capteurs de chaleur répartis régulièrement sur sa longueur, et c'est ainsi qu'on fera des mesures très précises de température à des profondeurs différentes pour estimer la chaleur produite à grande profondeur et la manière dont elle se propage dans le sous-sol. Couplé avec les résultats de CEIS, cela permettra une meilleure compréhension de la nature et des caractéristiques des différentes structures internes de Mars. On peut donc s'attendre à reparler de InSight dans cette chronique au moins jusqu'en 2021, puisque la mission est prévue pour 2 ans, et pas seulement pour les belles images du paysage martien que ces caméras nous enverront.
Et des sondes en route vers les étoiles ?
Voilà, ce sujet est une conséquence de mon petit voyage à Paris au début du mois dernier pour participer au RCE, les Rencontres du Ciel et de l'Espace, un peu la grande messe biennale de l'astronomie en France organisée en partenariat entre la CSI, la Cité des Sciences et de l'Industrie, et l'AFA, Association Française d'Astronomie. Je n'aurai jamais le temps de relater ici toutes les conférences auxquelles j'ai pu assister, ça allait de la détection des ondes gravitationnelles aux techniques de prise de vue du fameux rayon vert au lever ou coucher du soleil, ni les stands du salon commercial qui accompagne cette manifestation, allant des boutiques où on vend des météorites, aux loueurs de télescopes situés au Chili, en passant par tous les distributeurs de télescopes qui exposent des engins impressionnants, dont ils cachent par pudeur le tarif de vente. Il faut savoir que ça peut atteindre, pour un équipement complet, le prix d'un appartement ou d'une petite maison. Je ne parlerai donc que d'une seule conférence, en fait plutôt une espèce de table ronde avec débat, qui m'a enthousiasmé et me permet de faire un petit mea culpa. Car j'ai souvent répété ici que les étoiles nous étaient totalement inaccessibles en raison des distances considérables qui nous séparent. Et cette discussion m'a fait un peu réviser mon point de vue. Les nombres sont pourtant incontestables. En prenant l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, située à 4,2 années-lumière de nous, c'est-à-dire sa lumière met un peu plus de 4 ans pour nous atteindre. Et en imaginant que la sonde spatiale la plus rapide que l'homme ait jamais envoyée dans l'espace, c'est New Horizons, qui a survolé brièvement Pluton le 14 juillet 2015, donc si on imagine que cette sonde part directement dans la direction de cette étoile à sa vitesse actuelle, soit environ 50 000 km/h, une simple division montre qu'il lui faudra dans les 90 000 ans pour atteindre cette étoile voisine. Mais en fait, tout n'est que question de vitesse, et donc d'une accélération plus ou moins forte et d'une durée plus ou moins longue. Sauf qu'on se heurte à des règles physiques simples. Pour rejoindre cette étoile en quelques dizaines d'années, ce qui pourrait être acceptable à l'échelle d'une vie humaine, il faudra atteindre une vitesse assez conséquente par rapport à celle de la lumière. Par exemple, 1/10 de la lumière, de la vitesse de la lumière, permettrait d'y arriver en à peu près 40 ans. Mais cela nécessiterait une énergie considérable, incompatible avec les budgets et les contraintes de taille et de masse d'une sonde spatiale. Et pourtant, certains originaux ont développé des idées qui renversent un peu les termes de l'équation et permettent d'envisager la possibilité d'une exploration stellaire aussi incroyable que cela puisse paraître. J'en avais déjà entendu parler cet été, mais c'est cette conférence des RCE qui m'a permis de mieux comprendre les projets de l'initiative qui s'appelle Breakthrough Starshot, lancée en 2016 par des scientifiques et soutenue financièrement par un milliardaire russe et le fameux Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Le rapproche est rendu théoriquement possible par deux idées simples à la base, mais beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre pratiquement. La première est que l'énergie nécessaire à une énorme accélération, permettant d'atteindre une fraction de la vitesse de la lumière, est d'autant moins grande que la masse à propulser est petite. Tout le monde peut facilement comprendre que, par exemple, le moteur d'un scooter pourrait faire avancer un camion, mais avec une accélération très faible. Donc ce qu'on se propose d'envoyer vers les étoiles proches sont des nanosondes minuscules, en fait des puces électroniques de l'ordre du gramme. Le directeur du projet, un ancien directeur de mission à la NASA, Pete Worden, a d'ailleurs fait sensation à la CSI en sortant de sa poche un prototype de la sonde, à peine visible dans son emballage en plastique, et en proclamant avec humour « Je suis sans doute le seul homme à me promener avec un vaisseau spatial dans la poche ». Bien entendu, ces sondes minuscules posséderont très peu de capacité. Mais l'idée est d'en produire différentes variantes, certaines spécialisées pour prendre des images, d'autres pour mesurer la température ou les radiations ou le champ magnétique. Et il n'est pas question d'en envoyer quelques dizaines, mais des milliers ou des dizaines de milliers, car on se doute qu'il y aura beaucoup de pertes avec les risques de collision à grande vitesse tout le long de l'immense trajet. La deuxième idée est au sujet de la propulsion. Pour avoir une masse réduite tout en utilisant une énergie considérable pour accélérer, il ne faut pas que la sonde emporte son moteur et son carburant avec elle, ce qui est totalement impossible pour une sonde de 1 gramme grande comme une puce électronique. Mais il faut la pousser depuis la Terre.
Mais comment est-ce possible ?
Alors bien sûr, ce n'est pas avec les moteurs chimiques habituels, ni même les moteurs électriques ou nucléaires sur lesquels on travaille dans le domaine spatial. Paradoxalement, pour atteindre une vitesse approchant de celle de la lumière, on va utiliser la lumière elle-même. Chaque microsonde sera équipée d'une sorte de voile, très légère, mais d'une surface conséquente de l'ordre de 5 mètres carrés. Et on va pousser cette voile depuis la Terre en lui tirant dessus avec un laser très puissant. Nos auditeurs sont peut-être surpris d'entendre que la lumière peut produire une poussée, mais on peut comprendre que c'est possible en utilisant la représentation corpusculaire de la lumière, les fameux photons. Même s'ils sont de masse nulle, donc n'ayant aucune énergie cinétique, comme avec un corps massif, il possède une certaine énergie de radiation, dépendant de la longueur d'onde. Si le photon est arrêté, ou plutôt absorbé, par un côté de la voile, c'est qu'il lui a cédé cette énergie, se traduisant par une poussée mécanique, en raison du déséquilibre avec l'autre face de la voile qui ne subit pas ce bombardement de photons, donc ce transfert d'énergie. Pour le voyage interstellaire, on exploiterait cet effet en l'amplifiant au maximum par l'utilisation d'une surface importante, une voile de plusieurs mètres carrés, et une lumière très puissante, celle d'un laser, permettant de concentrer une forte puissance lumineuse dans un rayon de petite taille qui ne se disperse pas trop, même à très grande distance. D'après les calculs, on pourrait accélérer ainsi les nanosondes jusqu'à 1/5 de la vitesse de la lumière et donc leur faire atteindre Proxima du Centaure en une vingtaine d'années.
Donc si j'ai bien compris, le voyage vers les étoiles, c'est pour bientôt ?
Alors pas tout à fait. Si tout ceci tient la route sur le plan théorique, il y a beaucoup de problèmes techniques à résoudre, même s'ils ne paraissent pas complètement insurmontables. La miniaturisation des sondes de différents types, la conception de leur voile ultra légère, la construction de lasers très puissants et surtout la capacité à concentrer leur énergie sur une petite surface, même à grande distance. La façon aussi dont on pourra ralentir les sondes à l'approche de leur objectif, parce que ce serait idiot de les envoyer là-bas pour un survol d'un système stellaire en quelques minutes ou d'une étoile en une fraction de seconde. Et la capacité pour ces sondes de nous renvoyer des informations, malgré la distance vertigineuse, sans commune mesure avec les retransmissions de nos sondes actuelles dans le système solaire, souvent équipées d'antennes paraboliques énormes. Cette différence d'échelle est évidente si on pense que la transmission prendra plus de 4 ans, contre 8 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure pour InSight sur Mars. Les objectifs de Breakthrough Starshot sont pour le moment de résoudre ces problèmes et d'expérimenter les solutions à petite échelle, par exemple en commençant à pousser quelques prototypes dans les années 2020. Mais au final, pour une mission à grande échelle de dizaines de milliers de nanosondes, ce qui pourrait représenter un budget global de dizaines de milliards d'euros avec les lasers de poussée, la structure se retournerait vers les agences spatiales comme la NASA ou l'ESA, car leurs riches mécènes ne pourront plus suivre. Selon leurs prédictions optimistes, le planning de ce projet pourrait conduire à recevoir les premières transmissions depuis Proxima, peut-être vers 2065. Même si cela ne prend pas de retard, ce qui est pourtant souvent la règle dans les projets spatiaux. Cela a fait un peu loin pour notre génération, car je doute un peu de ma survie en bonne santé jusqu'à l'âge de 107 ans. mais c'est à la portée de nos enfants et petits-enfants. Et les infos qui reviendront risquent d'être intéressantes, car on sait aujourd'hui que le système multiple de Proxima comporte au moins une planète de type terrestre, une super-Terre, donc un peu plus grosse que la Terre, située à une distance de son étoile permettant d'envisager la présence d'eau liquide à sa surface, donc peut-être une possibilité de vie. J'avais déjà évoqué ici mes activités d'écrivain amateur de petites nouvelles de science-fiction, et je dois dire que cette histoire me paraît propice à inspirer un récit intéressant, même si pour le moment, je n'ai pas encore trouvé sous quel angle l'aborder.
Allez, deuxième partie de votre chronique, le sujet et le thème, le cinquantenaire des missions lunaires Apollo, et avec un peu d'avance, car c'est pour juillet 2019.
Alors effectivement, c'est bien le 21 juillet prochain, 20 juillet pour les Américains, qu'on fêtera le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, l'étape la plus marquante de l'histoire de la conquête spatiale du XXe siècle. Mais l'aventure Apollo n'a pas commencé brutalement avec la réussite d'Apollo 11. Il y a eu tout un cheminement de tests, de missions préparatoires, comme dans tout programme spatial, ainsi que je l'ai déjà évoqué ici, en déplorant tous les retards pris par exemple par le projet SLS de la NASA pour disposer d'un lanceur capable de mettre en orbite une capsule habitée. À ce propos, je vais faire une petite parenthèse concernant l'accident au décollage du dernier Soyouz en octobre dont j'avais parlé le mois dernier et qui pouvait mettre en question gravement la poursuite des missions à bord de l'ISS. Les Russes ont été très rapides à mener l'enquête sur les causes de l'accident et ont rendu leurs conclusions dès le 31 octobre. Comme l'origine de la panne est connue et que les mesures ont été prises pour qu'elles ne se reproduisent pas, les Soyouz ont déjà été réautorisés à décoller dès ce mois de novembre, mais pour des missions cargo, donc non habitées de ravitaillement de l'ISS. Et le premier lancement avec 3 astronautes à bord est prévu pour le 3 décembre, donc lundi prochain. Mais revenons au programme Apollo pour lequel nous pourrons fêter en ce mois de décembre les 50 ans d'une étape majeure avec le décollage le 21 décembre 1968 d'Apollo 8 pour la première mission qui allait emporter un équipage jusqu'à la Lune et juste pour Noël le 24 décembre. Aujourd'hui complètement occultée par le succès d'Apollo 11, cette mission avait connu à l'époque un retentissement mondial car c'était l'occasion d'une série de premières astronautiques remarquables. C'était la première sortie de l'orbite terrestre par une capsule habitée. La première vision complète du globe terrestre par des hommes. Il faut savoir qu'en orbite, on ne voit toujours qu'une petite portion de la planète. C'était la première mise en orbite autour d'un autre astre, la Lune. La première vision directe par des hommes de la face cachée de la Lune, qui avait été photographiée par la sonde lunaire russe Luna 3, 9 ans plus tôt, en décembre 1959. Et enfin, la première vision d'un lever de Terre au-dessus de l'horizon lunaire, qui restera peut-être comme l'élément le plus marquant de cette mission, tant cette célèbre image de notre planète, si petite et fragile au milieu d'un univers vide et hostile, marquera l'imagination, contribuant sans doute au renforcement de la conscience écologique qui commençait à émerger dans les années 60. Une curiosité, aujourd'hui, c'est le seul équipage d'une mission Apollo dont les 3 astronautes sont toujours en vie. Il s'agit de Frank Borman et Jim Lowell, tous deux âgés aujourd'hui de 90 ans, et le jeune hôte de seulement 85 ans, Bill Anders. Et pourtant, ils avaient pris un risque énorme en embarquant pour cette mission, dont on estimait les chances de réussite à guère plus de 50%. C'est-à-dire environ une chance sur deux de revenir sain et sauf sur Terre. Voici quelques éléments permettant d'apprécier la dangerosité de l'entreprise. Leur lancement était seulement le 3e tir de l'énorme fusée Saturn V. Et les 2 essais précédents ont été faits sans équipage humain à bord de la capsule. Lors de ces essais, aucune tentative de partir sur une trajectoire lunaire n'avait été faite, et au contraire, lors du 2e test avec Apollo 6, le moteur qui l'aurait permis avait refusé de s'allumer. C'était donc sans aucune assurance de réussite que débutait cette expédition au déroulement très complexe et donc susceptible de rater pour une petite panne. Il fallait d'abord quitter l'orbite terrestre en direction de la Lune, ce qu'ils ont fait environ 3 heures après leur décollage. Puis après 2 jours de voyage, quand l'attraction lunaire commençait à les accélérer, retourner la capsule pour que son unique moteur soit dirigé vers la Lune afin de ralentir et de se mettre en orbite autour de notre satellite. Si la poussée avait été trop faible, il continuait dans l'espace en s'éloignant de la Terre à tout jamais. Si elle avait été trop forte, ils auraient pu se cracher à la surface. Et tout cela s'est joué pendant les 4 minutes d'allumage de ce moteur, décrites par l'équipage comme les 4 minutes les plus longues de leur vie. Une fois en orbite lunaire, se retrouver totalement coupé de la Terre pendant le survol de la face cachée, puisque toute l'épaisseur de la Lune s'interpose alors entre la Terre et le vaisseau, interdisant toute liaison radio avec les équipes au sol. Donc aucune aide à attendre si le moindre incident survenait. Comme on sait, ça a été le cas ensuite avec Apollo 13, dont l'équipage a pu être sauvé grâce à tous les conseils et solutions apportés par le centre de contrôle du vol. Une perte de contact donc d'environ une heure, puis une heure de transmission possible à chacune des 10 orbites effectuées pendant environ 24 heures passées autour de la Lune. Ensuite, rallumage du moteur sous peine de rester indéfiniment à tourner là-bas. Trajet de retour d'environ 2 jours et demi avant de retrouver la Terre. Effectuer la descente dans l'atmosphère jusqu'à se poser sur les eaux du Pacifique. Pour bien mesurer l'exploit, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, malgré 50 ans de progrès technologique, nous ne disposons ni du lanceur, ni de la capsule qui permettrait de le reproduire.
Donc tout a bien marché, hein, malgré ces risques énormes.
Oui, mais en dépit de sa réussite complète, cette mission a connu plusieurs difficultés. 5 heures après le décollage, les astronautes constatent que les hublots de la capsule sont voilés. Et c'est en fait dû à un joint qui a fondu pendant le lancement. Donc on imagine l'accident que ça aurait pu produire. Après 18 heures de vol, Borman se sent malade. On sait maintenant qu'il s'agit du mal de l'espace, dû à l'apesanteur et à la difficulté de notre système d'orientation de s'y adapter. Il est pris de diarrhée et de vomissements, ce qui a pour résultat une puanteur terrible et des déchets flottant librement dans leur capsule exiguë où ils devront encore passer plus de 5 jours. Lors de leur trajet vers la Lune, ils perdent tout contact avec la Terre pendant 20 minutes. Et la fameuse photo du lever de Terre, toute bleue au-dessus du terne horizon gris lunaire, a bien failli ne jamais être réalisée non plus, car pendant les 3 premières orbites, la capsule était orientée de telle manière que les astronautes ne la voyaient pas par les hublots. Une fois dans le bon sens, la première photo prise, qui était en noir et blanc, était un peu ratée, car la Terre ne dépassait pas complètement. Puis, le temps de trouver et charger une pellicule couleur, car je signale à nos jeunes auditeurs que la photo numérique n'existait pas encore à l'époque, la Terre disparaît du hublot. Mais heureusement, Bill Anders parvient à la prendre par un autre hublot à 2 reprises. C'est la première qui est la plus connue, car la seconde est moins jolie, la Terre s'étant trop éloignée de l'horizon lunaire. Mais il y a eu aussi beaucoup de moments émouvants, comme les astronautes décrivant en direct la surface lunaire qu'ils survolaient à moins de 200 km d'altitude, et même 100 km dans les dernières orbites, ou comment la surface non éclairée de la Lune creuse comme un énorme trou noir au milieu de l'espace rempli d'étoiles, bien plus nombreuses que vues depuis la Terre, car sans atmosphère pour réduire leur éclat. Il y a eu aussi des images diffusées en direct par la télé, la Terre entière en train de s'éloigner derrière les astronautes partis pour la Lune, ou la surface lunaire avec tous ses cratères vus de près. Un des moments qui reste gravé dans l'histoire est la nuit de Noël, la première que des astronautes passaient dans l'espace, où l'équipage a cru bon de lire au public qui les suivait en direct les premières phrases de la Bible, la Genèse, avant de souhaiter à tous un joyeux Noël. Et à propos de Noël, il y a une autre transmission qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui, quand quelques heures plus tard, venant de quitter pour la dernière fois la face cachée de la Lune et constatant que l'éjection vers la Terre était un succès, Lowell a dit au contrôle « Soyez informés qu'il y a un Père Noël ». C'était sans doute une façon amusante de saluer cet exploit technique, mais les commentateurs de tout poil, notamment de la tendance complotiste un peu à la Mulder, hein, si je peux faire référence à une série bien connue, débattent sans fin de la vraie signification de cette phrase, pensant que l'expression « Père Noël » était un code pour dire de manière cachée qu'ils avaient vu un engin extraterrestre sur ou près de la Lune. Au final, ce qu'on peut retenir de cette mission extraordinaire, c'est que comme souvent lors des expéditions périlleuses, on n'a pas trouvé ce qu'on était parti chercher. En se mettant en orbite pour la première fois autour de la Lune, l'humanité voulait découvrir sa face cachée. Mais au final, c'est la Terre que l'on a découverte, comme on ne l'avait jamais vue auparavant, et cela a changé pour toujours notre perception de notre planète.
Allez, toujours votre chronique astro numéro 49, Michel, et vous allez aborder le ciel du mois.
Oui, alors comme les sujets précédents étaient assez denses et longs à traiter, j'ai décidé de raccourcir cette rubrique ce mois-ci et de proposer aux éditeurs d'aller plutôt consulter la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web. Donc je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Il y a un onglet « Astronomie » dans lequel on trouve le ciel du mois et on trouve d'ailleurs aussi les chroniques audio radio depuis le début. Donc ils y verront les cartes du ciel correspondantes et un peu plus d'infos sur les événements astronomiques de décembre que je mettrai à jour seulement à la fin de la semaine, hein. Donc tout fin novembre ou début décembre. Au fond, la situation n'est pas très différente de novembre, car les jours continuant à se raccourcir, la nuit survient de plus en plus tôt, ce qui compense presque le décalage progressif de la voûte étoilée vers l'ouest, offrant donc presque toujours une position analogue du ciel d'automne, très présent au sud, avec le carré de Pégase haut dans le ciel, et en le prolongeant le long d'Andromède vers l'est, la petite tache floue de la partie centrale de la grande galaxie d'Andromède, notre voisine, l'objet le plus lointain perceptible à l'œil nu dans le ciel, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Et vers l'est, les constellations du ciel d'hiver qui commencent à venir réclamer leur tour, la plus fameuse et belle Orion se levant actuellement vers 21h, mais qui apparaîtra fin décembre dès le tout début de nuit vers 18h30, raison pour laquelle on surnomme les trois étoiles bien alignées qui dessinent la ceinture de cette silhouette de chasseur les rois mages, car ils se montrent au plus tôt dans le ciel, à peu près vers Noël. Et bien sûr, Mars, la planète orangée, encore bien visible en ce moment vers le sud, en tout début de nuit, position qui restera pratiquement la même pendant tout le mois, mais avec un éclat allant en faiblissant, hein, puisqu'on est progressivement en train de s'éloigner d'elle. Actuellement, c'est à peu près l'éclat des étoiles les plus brillantes du ciel. Je me contenterai de développer deux phénomènes pour le mois de décembre. D'abord, le solstice d'hiver du 21 décembre, qui correspond à la position la plus basse du soleil dans le ciel, très en dessous de l'équateur céleste, et donc à la journée la plus courte de l'année, un peu moins de 9 heures en France, et bien sûr, la nuit la plus longue, un peu plus de 15 heures. Cette date a été choisie pour marquer le début officiel de l'hiver pour nous, et de l'été dans l'hémisphère sud, hein, où les saisons sont inversées, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Et comme la jeune religion catholique naissante a trouvé plus astucieux de détourner les anciennes fêtes païennes qui avaient lieu à cette occasion plutôt que de les interdire, Noël, censé théoriquement fêter la naissance du Christ selon un calendrier établi des siècles plus tard, se retrouve dans la même période de l'année. L'autre phénomène est plus rare, car c'est le retour d'une petite comète périodique, elle s'appelle 46P Virtanen, découverte par cet astronome sur des photos de l'observatoire californien de Lick en janvier 1948, et qui revient vers le Soleil tous les 5 ans et demi environ. Cette année, son passage au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, est pour le 16 décembre, et sa position assez proche de la Terre, avec une distance d'environ 30 fois la distance Terre-Lune, la rendra particulièrement lumineuse. Le passage le plus spectaculaire des 20 prochaines années selon les spécialistes. Au point que la comète devrait devenir perceptible à l'œil nu, bien sûr dans un ciel bien noir de loin de la pollution lumineuse des villes, alors que pour le moment elle n'est observable qu'avec un instrument, au moins une paire de jumelles. Si nos auditeurs ont l'occasion de tenter cette observation, je leur déconseille d'attendre jusqu'à cette date du 16 décembre, car la Lune sera déjà très grosse et gênante. Je pense que si la météo le permet, il faudrait peut-être essayer avant le 14 décembre, par exemple le 13, où le gros croissant de lune se couchera vers 23 heures, et c'est le moment où la comète sera la plus haute dans le ciel, plein sud. En tout cas, c'est un joli cadeau que fait cette petite visiteuse aux astronomes, presque à l'occasion de Noël. Alors je terminerai cette chronique en souhaitant à tous nos auditeurs de joyeuses fêtes de fin d'année, car je crois que la prochaine chronique devra être programmée début janvier, peut-être le mercredi 2, car je serai absent de la région toute la dernière semaine de décembre. Alors je vais faire une petite parenthèse personnelle, cette fin d'année est aussi une occasion très spéciale pour moi, car j'ai prévu de fêter mes 60 ans, anniversaire qui tombe en réalité une semaine avant Noël, avec mon ami, mes fils, leur compagne, mes trois petits-enfants, tous réunis dans un chalet d'une région des Alpes que j'apprécie particulièrement, la vallée de Chamonix.
Voilà, bien Michel, on vous souhaite plein de belles choses, hein. Voilà, c'est pour ces événements. Merci pour cette chronique numéro 49. On se revoit début janvier, donc.
Voilà, on pourra souhaiter un nouvel an, reparler peut-être un peu du calendrier.
Oui, de l'actu, bien sûr, ça sera la prochaine.
Et boire peut-être une boisson gazeuse
pour l'occasion. Oui, ça on note, c'est enregistré. Voilà, donc Michel, vraiment, merci beaucoup pour tout ce travail. Hein, on le rappelle, hein, de la passion, très impliquée, mais voilà, il y a beaucoup de boulot. Et on retrouve toutes ces chroniques sur le site constellationsetgalaxies.org. Donc rappelez-nous, hein, c'est important de le rappeler, de nous dire quelques mots sur le planétarium.
Oui, on trouve toutes les informations voilà. Sur l'association, ses activités. C'est organisé sous forme d'onglets, donc le plus simple pour tous ceux qui peuvent s'intéresser au planétarium, par exemple des enseignants, ben, y a un onglet planétarium où on trouve toutes les infos, la place qu'il faut, les tarifs, qu'est-ce qu'on aborde comme sujet d'astronomie dans un planétarium. Et puis je dirais, il y a un onglet exposition, mais ça ne concerne pas la région bordelaise puisque c'est uniquement en Dordogne qu'on pratique ça. Et l'onglet tout complètement à droite qui s'appelle Astronomie, dans lequel on retrouve les cartes avec les rubriques ciel du mois, où on a la carte des constellations, des objets visibles dans le ciel et les explications des principales choses qu'on peut observer pendant le mois. Et une rubrique spéciale chronique O2 Radio où on a toutes les chroniques en format MP3 qu'on peut réécouter depuis la première. Donc les 49, ça prend quand même un peu de temps, mais on peut très bien piquer dedans les sujets qui intéressent, puisqu'à chaque fois, il indiquait un peu de quoi traiter la chronique, comme cette fois-ci, bah, c'est Insight, Apollo 8 et Breakthrough Starshot.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, Michel. On se voit en début d'année prochaine. Hein. Voilà, on se souhaitera plein de belles choses à ce moment-là. Voilà, en tout cas, encore merci. Puis ça sera la chronique numéro 50. Voilà, le mercredi. Voilà.
Raison de plus.
2 janvier. Vous serez le premier invité, hein, de l'année 2019.
Pour consommer un peu de liquide.
Voilà. Voilà, on est en direct, mais c'est bon. En tout cas, merci pour tout ce fabuleux travail.